Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Livre 1er, Angebashan. Épisode 1, 2, 3. C'est l'aube sur Angebashan. Les premières lueurs du soleil cachent les étoiles qui font rêver la moitié de l'humanité. Les habitants d'Angebashan n'ont pas la tête dans les étoiles. Leur souhait est plutôt de garder les pieds bien sur terre. C'est le cas d'Andresh Varatunan, qui pensait, jusque-là, y avoir réussi. Pourtant, ce jour, le ciel va lui tomber sur la tête. Son café vite avalé, il sort de son appartement pour rejoindre son boulot. Et là, devant la porte, une petite enveloppe jaune. Le choc est tel qu'il reste de nombreuses secondes, comme tétanisé, n'osant même pas se baisser pour la prendre. Il finit par s'y résoudre, sachant exactement ce qu'elle représente. Non pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce que sa simple présence à ses pieds signifie. Ils l'ont retrouvé. Ici, dans la tour Novgorod du quartier Europa, alors qu'il avait déménagé, sans forcément penser à leur échapper. Il s'était cru libéré, délivré, après la visite d'Alexei. Mais non. Visiblement, le Maïdanar comptait toujours sur lui. Il n'en avait pas fini avec son passé. C'était une catastrophe, car il y a 3 jours, il venait de violer la règle de base des Benguintai, sans même penser aux conséquences. 7 ans après son arrivée à Angebashan, enfin, à Angebashan, sur l'île, pas dans la ville, 3 ans seulement, après réellement son emménagement en ville, il avait tout simplement oublié ce qu'il était. Un Benguintai, un espion, comme on dit dans le mélange de langage à moitié indonésien, à moitié malaisien. C'est même dans la joie qu'il avait violé cette règle de sécurité de base, comme si devenir citoyen, vraiment citoyen, d'Angebashan avait lavé son passé. Et c'est vrai que c'est souvent le cas pour de nombreuses personnes qui vivent ici. Angebashan est une ville-état, née de l'éclatement de ce qui fut appelé à un moment les nations, déchirées par les guerres territoriales, ethniques, religieuses, économiques. Un tout petit bouddhisme avec une ville resserrée, faite de grands buildings. Bizarrement, contrairement aux autres grandes villes du sud-est asiatique, pas juste au bord de la mer, plutôt à l'intérieur de l'isthme, ce qui l'avait sauvé. La ville d'Angebashan était déjà, à l'époque, un repère de gens plus ou moins fréquentables. La haute finance y faisait ses magouilles, quelques mafias s'y étaient bien implantées. On y avait déjà des activités informatiques poussées, certaines, dirons-nous, du bon côté, d'autres plutôt du côté obscur. La montée des eaux, due au réchauffement climatique, en avait fait un centre relativement important, car la plupart des autres grandes villes, qui tenaient le haut du pavé jusque-là, s'étaient aperçues qu'elles n'étaient pas suffisamment haut sur le pavé pour résister à la montée des eaux. Angebashan, qui n'était pas au bord de la mer, mais environ 3 mètres au-dessus de son niveau et à plusieurs kilomètres de la côte, était dès lors devenu un centre économique, certes peu fréquentable, mais bien connu. Le gigantesque tremblement de terre, qui avait secoué toute l'Asie il y a une 40aine d'années, avait eu 2 effets majeurs. Le premier, l'isthme s'était effondré. Angebashan n'était plus une ville-état, sur un isthme, mais une ville au milieu d'une île de quelques kilomètres de long et quelques kilomètres de large, en forme de patate, et un bout de terre resté sur le continent. Le tout séparé par un bras de mer de plus d'une 10aine de kilomètres, ce qui en faisait réellement une île. Ce qui restait de la cité-état sur le continent, appelée Siantva, quelque chose comme « qui brille » dans une vieille langue indienne, était devenue une gigantesque décharge, où la ville exportait ses déchets et gérait les déchets de ce qui restait de civilisation tout autour. Avant de représenter ce qui brillait dans les déchets, ce qui pouvait représenter un trésor pour les pauvres, c'était d'abord le continent qui brillait aux yeux des malheureux qui étaient restés sur l'île, jusqu'à ce que les choses se mettent en place et que l'île finisse elle-même par briller aux yeux de tous les miséreux de la région. Siantva n'était plus une terre, ça n'était plus qu'une gigantesque décharge à ciel ouvert, alors que la ville, elle, brillait de 1000 feux. Le 2e effet du grand tremblement de terre ne fut pas immédiat, mais radical. La base de l'île, ébranlée, s'était effondrée sous le poids des immeubles. Pas toute l'île, juste la ville. Comme une cuvette qui s'était enfoncée progressivement de plusieurs mètres jusqu'à inonder la totalité des immeubles. La montée des eaux, qui jusque-là avait épargné Angebashan, transformait chaque immeuble en une île, au milieu d'un lac, lui-même, au milieu d'une île, pas inondée, mais beaucoup plus humide qu'autrefois. Alors que les jardins, c'est comme cela qu'on appelle le reste de l'île, se trouvent suffisamment au-dessus du niveau de la mer, la ville est à 4,50 m en dessous. Le rez-de-chaussée, l'ex-rez-de-chaussée, le niveau ville, les rues et tout ce qu'il pouvait y avoir en dessous, les boutiques, les garages, dans les sous-sols, tout cela est sous l'eau. Le premier étage aussi, inondé. Le deuxième étage, que l'on appelle maintenant niveau moins 3, est un petit peu en dessous de l'eau, et tous les 3-4 ans, au moment des grosses moussons, quand l'eau peut monter jusqu'à 2 mètres par rapport au niveau habituel, il se trouve inondé. L'ex-troisième étage est devenu le moins 2. Lui aussi est parfois inondé, beaucoup plus rarement, au moment des tempêtes, pour les énormes moussons, tous les 10-15 ans. Il arrive alors que le niveau de l'eau monte de plus de 4,50 m. Il faut monter à ce qui était autrefois le quatrième étage, que l'on appelle maintenant le moins 1, pour être sûr d'avoir les pieds au sec. Quoique, enfin, en 30 ans, ce n'est arrivé que deux fois, et encore, pas inondé, juste les pieds dans l'eau, à fleur d'eau ou 10-15 cm. Au-dessus, ce qui était autrefois le cinquième étage est devenu maintenant ce que l'on appelle le niveau plateforme. C'est à cet endroit-là que l'on a construit les passerelles entre les immeubles. Il n'y a pas d'appartements, uniquement des boutiques et les passages que l'on a creusés à travers les appartements ou de grands aplats, là où certaines tours se sont effondrées. Car oui, bien sûr, tout ce qui n'avait pas trois étages a été balayé. Il y avait vaguement de petits immeubles ou de vieux quartiers ou des centres plus ou moins taudis. Tout cela a été balayé. Et certaines tours, à cause de l'eau et du tremblement de terre, ébranlées dans leurs fondations, se sont effondrées. L'adaptation de la ville, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est faite par étapes, mais très rapidement, en quelques années. D'abord, il y eut effectivement ces tours qui se sont effondrées. Un petit peu par hasard, les deux principales se sont effondrées au niveau de ce qui était autrefois le cinquième étage. En poussant les remblais, ça permettait d'avoir une sorte de plateforme et de gagner un peu sur l'eau environnante. Au fameux cinquième étage, dans tous les immeubles, on avait détruit des appartements pour en faire des allées qui permettaient de les traverser, généralement en forme de croix, pas loin du milieu, là où les appartements n'avaient pas de lumière, des appartements qui ne coûtaient pas très cher. On avait juste besoin de contourner le cœur de béton. Puis on avait construit des passerelles, allant d'un immeuble à l'autre, justement au niveau de ces allées qui débouchaient sur chaque face de l'immeuble. Les tours qui s'étaient effondrées avaient été proprement arasées au niveau du cinquième étage, créant ainsi de grandes places en plein air, sur lesquelles, assez rapidement, les propriétaires avaient reconstruit, non pas une tour, mais des petites maisons. On avait fait de même avec ce qu'il restait des immeubles de 6 à 7 étages, dont les quelques niveaux supérieurs paraissaient moins importants que le fait d'avoir une place dégagée au niveau plateforme. On avait ensuite, dans chaque immeuble, creusé des escaliers à travers les appartements jusqu'à ce qui était autrefois le deuxième étage, devenu le niveau moins 3, pour mettre des embarcadères. Car très rapidement, un petit peu comme la Venise qui avait existé en Europe avant d'être engloutie, tout un réseau de transport par bateau s'était mis en place. L'économie s'était adaptée. Les propriétaires des immeubles n'avaient pas les moyens de les consolider, de les entretenir, pour éviter qu'ils ne s'effondrent à cause de l'attaque de l'eau. Ce sont donc des mafias qui avaient récupéré la ville, se l'étaient partagée, immeuble par immeuble. La ville était donc divisée en quartiers, tenus par un clan, chaque quartier comportant une ou plusieurs tours, en fonction de la richesse et de la puissance du clan. Ainsi, Andrzej Varatunan habitait aujourd'hui dans la tour Novgorod, du quartier Europa, quartier tenu par le clan Nawagorski, et ces trois éléments étaient intimement liés. C'est le clan Nawagorski qui possédait toutes les tours du quartier Europa, qui touchait les loyers, qui raquettait gentiment toutes les boutiques qui ne pouvaient de toute façon s'implanter qu'avec leur autorisation. De même, de toute façon, pour les appartements. On payait un loyer, mais il fallait payer pour avoir un appartement, et on devait avoir l'autorisation du clan. Cela permettait au clan d'avoir l'argent qu'il fallait pour payer les travaux, et surtout la main d'œuvre. Car on ne payait pas seulement en argent, on payait aussi en service. Ainsi, quiconque vivait dans un quartier devait des heures de travail au clan. Un petit peu comme dans l'ex-système médiéval européen, où les paysans devaient une partie de leur récolte et les corvées. On n'en appartenait pas pour autant au clan. On pouvait être libre, par exemple, de trouver du travail ailleurs. Ailleurs, dans un autre quartier, où il fallait l'acceptation du clan pour être embauché à cet endroit et où une partie de ce que l'on gagnait lui remontait. Une autre partie servant à payer le loyer au clan qui, d'une certaine manière, nous hébergeait. Autant dire que si le boulot était miséreux, il ne restait plus grand-chose pour vivre. Les clans vivaient ainsi en bonne intelligence. Oh, de temps en temps, il y avait bien quelques guerres pour des petites choses. On chipotait, et ça n'allait jamais très loin. Une seule fois, peu après le début, un clan s'était montré particulièrement agressif et avait tenté de bousculer un petit peu l'ordre établi en faisant la guerre à un quartier à côté pour s'étendre et récupérer une tour. Le nom de ce clan est maintenant interdit. Le clan n'existe plus. En quelques semaines, ce fut un véritable massacre, l'intégralité des autres clans l'ayant éradiqué. C'était trop dangereux, ce genre de choses. L'ordre devait régner, on pouvait se disputer certains éléments, et certainement pas les quartiers ou les tours. La violence aurait été trop dangereuse. Il suffisait d'une bombe pour faire basculer une tour dans l'eau, et potentiellement la faire basculer sur une autre. Beaucoup trop dangereux. L'ordre régnait à Angebashan. On y était tranquille. Il n'y avait pas de violence, en tout cas pas de violence au grand jour. Oh, de temps en temps, pour de sales histoires, du moins on s'en doutait, il arrivait qu'on retrouve un cadavre flottant entre deux tours. Mais ça n'allait pas plus loin. Non, l'ordre régnait. La misère aussi, avec une forte hiérarchie. Plus on arrivait haut dans une tour, plus cela signifiait qu'on était riche et puissant. La hauteur des tours ne signifiait pas grand-chose elle-même, car la plupart du temps, les clans s'étaient installés dans les tours qu'ils habitaient déjà, avec forcément des niveaux différents. Mais l'ascension sociale, c'était clairement une ascension vers les étages supérieurs, les miséreux habitant sous le niveau plateforme. Au moins trois, les esclaves, qui n'avaient rien, car de toute façon tous les 3-4 ans, ils seraient obligés de déménager et tout serait envahi par l'eau. Au moins deux, ceux qui commençaient à prendre pied, sans mauvais jeu de mots. Puis, le moins un, la masse des travailleurs, pas encore tout à fait acceptés comme citoyens, mais qui étaient sur la bonne voie. Ensuite, on passait au premier étage, et là, on était citoyen. Le loyer était tellement plus important qu'au moins un, que souvent, passer du moins un au premier étage vous appauvrissait. Vous n'étiez pas devenu plus riche, simplement, vous étiez à un endroit où on vous respectait un peu plus, et vous aviez la certitude de ne jamais avoir les pieds dans l'eau, même pas tous les 10 ou 15 ans. Il est vrai que souvent, le premier étage, c'était pour les visiteurs ou les touristes, qui eux avaient les moyens de payer très cher, bien plus que ce que le loyer aurait dû être sur cette fameuse échelle de l'ascension sociale. Car oui, il y avait des visiteurs et des touristes. Une ville, ainsi, des immeubles plantés au milieu de l'eau, c'était folklorique, ça intéressait certains. Il y régnait le calme, les touristes, personne n'y touchait jamais. On pouvait sortir la nuit, il ne risquait rien de nous arriver. Alors, un petit peu de tourisme, et puis les affaires, tous les liens que les clans avaient avec le monde entier, plus ou moins camouflés. Bref, un bon endroit pour vivre. Un endroit où Andresh Varatunan avait cru devenir autre chose qu'un simple Mengintai. Peut-être même un jour échapper à la misère. La misère, certains s'en échappent. Mais un Mengintai ne s'échappe jamais de son organisation. On dit qu'avant de mourir, on revoit toute sa vie défiler devant ses yeux, en quelques secondes. Andresh Varatunan n'allait pas mourir, en tout cas peut-être pas tout de suite. Il a quand même vu défiler devant ses yeux, non pas toute sa vie, mais ces dernières années, depuis son arrivée à Angebashan. Lors de son arrivée sur l'île, la ville, au loin, qui apparaissait le matin parfois dans la brume, ses grandes tours, brillantes, les unes à côté des autres, avait été son objectif. C'était son objectif. Puis il avait rapidement oublié. Les jardins l'avaient happé. C'est que, dans l'échelle sociale qu'il allait découvrir, 4 ans plus tard, en accédant enfin à la ville, il y a un cran en dessous des plus miséreux de la ville. Il y a les paysans, ceux qui travaillent dans les jardins. De même que passer du moins un au premier, généralement, vous ruine, et donc votre fortune n'est pas représentative de cette ascension sociale. De même, On vit beaucoup mieux dans les jardins qu'en étant, corvéable à merci, au moins trois d'une tour, sans rien posséder, même pas ses meubles, qui de toute façon pourriront ou seront emportés quelques années plus tard. On ne peut même pas parler de la difficulté du travail. Évidemment, les paysans travaillent en plein air, en plein soleil, sous la pluie, des travaux de force. Mais généralement, quand on est au moins trois d'un Gebashan, les travaux que l'on fait sont aussi des travaux manuels, dans la pourriture, la promiscuité, la chaleur étouffante de la ville. Pas mieux. Non, les plus miséreux de la ville ne sont pas forcément moins à plaindre que les paysans. Simplement, ils peuvent espérer grimper, alors qu'un paysan restera un paysan, toute sa vie. Voilà pourquoi, il y a 3 ans, le droit de citoyenneté avait été comme un miracle pour Andrzej, qui avait fini par ne plus y croire. Il avait ramassé ses quelques affaires, on lui avait vaguement décrit l'enfer putride où il allait vivre, en lui disant que tout était fourni, puisque de toute façon, à la première mousson un peu importante, il perdrait tout. En plus de ses quelques vêtements, il avait tout de même pris sa vaisselle, ce qui allait changer sa vie, sans vraiment qu'il puisse s'en rendre compte. Direction, une pièce pourrie, 8 mètres carrés, au moins 3, de la tour Siforgène, du clan Viraen Prenom, le clan des éboueurs. D'où l'odeur encore plus immonde qui régnait dans les bas étages à cause du travail que faisaient ses voisins. Auquel il échappa. Trop intelligent, il pouvait aller chercher du travail bien plus qualifié et donc rapporter plus au clan, qui décida ainsi de l'exempter des corvées. Il rapportait de toute façon beaucoup plus en allant travailler même pour un autre clan. Le quartier de New Deran était presque à la limite de la ville, au nord-est, eh bien, logiquement, vers la décharge de Sianva. Le souci, c'était les horaires. Lui travaillait normalement, mais ses voisins commençaient beaucoup plus tôt le matin. Il avait du mal à dormir correctement, avec le bruit qu'il faisait quand il partait, bien avant l'aube. Sa chance, ce fut son voisin, un vieux chinois, Dong Hengzi, qui lui acheta cette vaisselle pour la donner à sa fille, qui vivait dans un autre quartier, avec un travail presque enviable, vendeuse, dans une boutique. Elle pouvait espérer grimper et un jour passer au-dessus du niveau plateforme. Lui travaillait à l'organisation. Ils avaient donc des horaires normaux, tous les deux, et purent discuter un petit peu. C'est Dong Heng qui lui expliqua tout ce qu'il fallait savoir dans la ville en échange de cette pauvre vaisselle. Et il y en avait des choses à savoir, des règles non écrites. La plupart à assimiler très vite la première journée, car ne pas les suivre pour beaucoup était fatal. Par exemple, la première nuit, avec l'odeur et la chaleur étouffante. Il fallait bien surveiller les horaires pour ouvrir les fenêtres. Entre 2 et 4 heures du matin, chaque tour était fermée hermétiquement. Les habitants calfeutraient bien les fenêtres et il y avait des patrouilles pour bien calfeutrer les portes. Car toutes les nuits, entre 2h et 2h30, les tuyaux jaunes qu'Andrzej avait vus au niveau plateforme, vers l'eau, crachaient les insecticides qui empêchaient les moustiques de se reproduire. Une demi-heure. Puis il fallait compter au moins 1h30 pour que ce poison ne fût plus un problème pour les humains. À partir de 4h, ceux qui étouffaient le plus pouvaient donc entrouvrir la fenêtre, l'odeur âpre n'était plus fatale pour eux, juste désagréable. Les craches la mort, comme on les appelait, qui tuaient n'importe qui, se baladaient au niveau de l'eau, et même parfois au niveau plateforme, après 2h du matin. Les habitants de New Deran, qui faisaient les ordures, partaient vers 4h et étaient habitués à cette puanteur qui finissait par ne plus leur racler la gorge. Mais beaucoup d'habitants regardaient ces tuyaux avec méfiance, car il y avait parfois des fuites, et il arrivait régulièrement, en journée, que quelqu'un se trouva mal, voire que tout un quartier connut de nombreux morts à cause d'un nuage qui s'était échappé, non prévu. Andrzej les regardait avec crainte, mais il y en avait partout, impossible de les éviter sur les passerelles ou sur les balcons le long des immeubles. Puis quelqu'un lui avait raconté, tout comme on lui avait parlé de Venise, de ces gens très riches qui allaient faire du sport l'hiver en montagne sur quelque chose que l'on appelait la neige, ou de la même manière, des tuyaux sortaient du sol. Mais cela était fait pour fabriquer la neige pour que les riches puissent s'amuser. Cela avait aidé Andrzej à regarder différemment les tuyaux jaunes et à finalement ne plus s'en soucier. Ensuite, il y avait bien sûr les clans, les quartiers, les tours. Andrzej avait trouvé très stupide qu'un quartier ne prenne pas le nom de son clan. Ça aurait été plus simple. Enfin, ça faisait partie de l'histoire. Les quartiers avaient été nommés bien avant que les mafias ne s'installent. Donc il fallait savoir, même si le calme régnait, à quel clan appartenait tel quartier, car les règles étaient parfois différentes d'un endroit à l'autre sur des petits détails. Par exemple, à certains endroits, il était interdit de fumer, sans que l'on sache bien si c'était moral ou si c'est parce qu'il y avait des activités avec du gasoil, de l'essence, des gaz, toutes ces choses bien pourries, interdites ailleurs et qu'on en utilisait encore aujourd'hui, typiquement pour les bateaux qui faisaient la navette un petit peu partout. On lui avait parlé de Venise avec cette comparaison, des ponts entre certains quartiers, mais pas tous. En effet, les passages qui avaient été creusés dans les appartements, au niveau 5 des immeubles, parfois donnaient sur de l'eau. Il n'existait pas de passerelles de chaque côté des immeubles. Et parfois des quartiers entiers n'étaient accessibles que par deux passerelles, ou trois. Outre qu'il fallait parfaitement connaître le plan, il fallait aussi connaître le trajet de ces fameux bateaux qui permettaient d'aller d'un endroit à l'autre beaucoup plus facilement que par les passerelles. Il y avait trois compagnies, tenues par des Philippins. On disait qu'ils étaient frères, on ne savait pas trop si en réalité ils travaillaient tous pour le même ou s'ils étaient réellement en concurrence. Des gros bateaux, avec des numéros et des couleurs bien vives, rouge, bleu et jaune, pour les repérer les uns les autres et savoir quel trajet ils faisaient. Trajet totalement erratique, très très loin de la ligne droite. Chacun s'était battu pour s'arrêter à l'endroit où il y avait le plus de monde, à l'endroit où il y avait le plus de boutiques, et quand deux des trois compagnies s'arrêtaient sur un bâtiment, la troisième ne s'y arrêtait pas. Les plans étaient ainsi assez compliqués, et parfois il fallait passer d'une compagnie à l'autre pour aller exactement à l'endroit où l'on souhaitait. Tout le temps il fallait apprendre à jongler. Les quartiers musulmans, pas question d'y passer pendant la prière. Et pour le quartier des adorateurs du soleil, pas question d'y aller la nuit. L'autre interdit qu'il avait appris rapidement, c'est que New Deran était proche du quartier Nishima, du clan Medersan, tenu par le Niwashi, le jardinier en japonais. Oh, il avait bien appris à connaître son nom, du temps où il était dans les jardins, enfin, surtout de Lord Dev, son acheteur. Il possédait toute l'île, le Niwashi. Enfin, en réalité non, c'est simplement qu'il avait le droit exclusif de tout ce qui était produit sur l'île. Quiconque à Angebashan voulait manger des produits de bonne qualité, qui n'avaient pas connu les produits chimiques, ni les longs transports, et donc qui venaient de l'île elle-même, était obligé d'acheter au Niwashi, parce que tous les paysans, dans les jardins, étaient obligés de lui vendre. Toute la récolte. Ils n'avaient même pas le droit de consommer ce qu'ils produisaient. En échange, ils étaient payés, et plutôt bien payés. Pour chaque sac de riz, par exemple, du bon riz, que l'on aurait dit à une époque bio et sain, local, il recevait trois sacs qui venaient du continent, qui avaient voyagé et que l'on avait fait pousser dans des conditions qu'il valait mieux peut-être ne pas savoir. En échange, Lord Dev ramenait à son maître du riz local d'excellente qualité que se partageaient tous les riches d'Angebashan. Pas d'export, pas besoin. Les quantités n'étaient pas suffisantes pour fournir le marché intérieur. Les prix grimpaient régulièrement en fonction de la qualité des récoltes. Parfois, au marché noir, on trouvait des fruits. On racontait que le Niwashi faisait exprès d'en laisser circuler certains de cette manière-là, permettant à quelques privilégiés qu'il avait choisis de se faire un petit peu d'argent, et surtout laissant, par la qualité du fruit, la renommée de ses produits continuer à irriguer la ville. Parce que pour le reste, ni boutique, ni restaurant. Personne n'avait jamais goûté le fameux riz. Personne ne savait même combien il coûtait. Seuls les grands pontes l'avaient à leur table et cela passait directement des entrepôts du Niwashi à leur cuisine. Tout comme New Deran était au bord de la ville pour faciliter le transport des éboueurs, le quartier Nishima était au bord de la ville pour permettre un accès facile aux bateaux qui pouvaient faire le tour du lac intérieur à ces entrepôts. Pas d'inquiétude quant à l'interdiction d'aller à ces endroits-là, il n'y avait pas de passerelle. Par contre, la livraison des fruits et légumes se faisait tous les jours entre midi et 14h, et donc tout le quartier Nishima était interdit pendant cet horaire-là. Et le clan Medersan était richissime, et le Niwashi était le seul à ne pas habiter très haut dans une tour, mais au contraire, une petite maison traditionnelle qu'il avait construite sur une tour qu'il avait fait niveler au 7e étage. Personne ne l'avait jamais vu. On racontait même qu'il ne vivait pas ici, qu'il vivait toujours au Japon. En tout cas, ce quartier-là était un quartier purement japonais et l'on savait qu'ils étaient riches et extrêmement puissants. Un autre endroit à éviter, l'espèce de plateforme que l'on appelait Go Live. Il y avait plusieurs moyens d'arriver à Angebashan depuis les jardins. À un moment, on avait même construit un pont qui avait fini par s'effondrer. Restaient simplement les piliers. Les arrivants clandestins, que ce soit des paysans ou des espions, avaient l'habitude de passer par là, le jour ou la nuit. C'était plus facile. Ils arrivaient ainsi à nager de pilier en pilier, car les restes en étaient restés dans l'eau, pouvant ainsi non seulement se cacher, mais aussi se reposer. La distance était de plus d'un kilomètre à cet endroit. Nager un kilomètre, c'était pas à la portée de tout le monde, et c'était surtout risqué de le faire à la vue de tous, au risque de se prendre un coup de fusil. C'est donc un endroit qu'il valait mieux éviter. On y faisait beaucoup de commerce, souvent du commerce un petit peu louche, mais on pouvait facilement être considéré comme un guetteur ou un complice de quelqu'un qui voulait soit arriver, soit partir discrètement. Mieux valait éviter cet endroit tant qu'on n'avait pas un certain statut social. Pour les nageurs officiels, avec un vrai contrôle, que ce soit à l'arrivée ou au départ, il y avait le chenal, l'endroit où la ville était le plus proche des jardins. 700 mètres tout de même. On avait bien coulé une vieille barge au milieu pour servir de relais. Il fallait quand même faire 350 mètres sans s'arrêter. Là non plus, n'était pas à la portée de tout le monde. Alors il fallait payer. En trois points différents. Il y avait des embarcadères avec des navires qui partaient des jardins vers la ville. Et là, comme Andrzej, vous pensez trois points, trois compagnies de navigation philippines. Raté. C'est le Niwashi qui gère ce qui se passe en bateau entre les jardins et la ville. Ça lui permet d'avoir la haute main sur les marchandises, de vérifier qu'il n'y a pas de produits agricoles qui devraient lui revenir, et ça lui assure un autre revenu confortable. Tous ceux qui ont essayé officiellement ou de nuit discrètement avec des barques ne sont jamais arrivés de l'autre côté. Toutes ces subtilités, plus la spécialité des différents clans, le jeu, l'informatique, le développement des jeux virtuels qui font fureur dans le monde, la fabrication d'alcool, la drogue, toute activité qui se fait à la fois en ville, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, le mercenariat. Ainsi du clan Citeos, qui a des mercenaires un petit peu partout dans le monde, et qui fournit de temps en temps des tueurs ou des hommes de main en ville. D'où les cadavres que les éboueurs du quartier New Deran retrouvent parfois flottant à la surface, au petit matin, et dont ils savent, c'est un code, s'il a ses chaussures ou non, s'ils doivent l'embarquer discrètement avec les ordures, ou au contraire, le laisser flotter là, pour que tout le monde, au jour levant, puisse le voir et savoir que quelque chose était arrivé. Bref, toutes ces subtilités qu'il fallait assimiler très vite pour pouvoir espérer faire son trou en ville. Andrzej avait rapidement trouvé du travail. Un travail plutôt bien rémunéré, qui lui permettait, en mettant un peu d'argent de côté, de pouvoir, peut-être en un an et demi, passer au moins deux. Le calendrier lui était favorable. La dernière grande mousson qui avait submergé le moins 3 avait eu lieu il y a un an. Normalement, cela arrivait tous les 3-4 ans. Il espérait pouvoir éviter cela. En attendant, il tissait des liens avec Dong Hengzi et récupérait ainsi toutes les informations que le vieux chinois avait glanées pendant tant d'années qu'il vivait dans cette ville bizarre. Tout ça pour un vieux verre cabossé, deux assiettes guère mieux et quelques couverts. La vie tient parfois à peu de choses. Parce qu'Andrzej avait décidé d'emmener ça, malgré tout, et avait ainsi offert presque toute sa fortune à son vieux voisin pour la fille de ce dernier, voilà qu'il avait accès à les informations de première main. Il pouvait aussi se sentir moins seul. Dans les jardins, il y avait une certaine solidarité entre les paysans. En ville, là au moins trois, entouré de gens qui le regardaient bizarrement, car eux étaient éboueurs, ils trimaient toute la journée, alors que lui avait trouvé un travail dans un bureau, il se sentait parfois seul. Ce matin-là, c'est avec un air encore plus maussade qu'Andrzej Baratunan fit le trajet qui séparait la tour Novgorod, là où il habitait, du quartier du clan des Aryandrikanom, là où il avait trouvé du travail, depuis le début. Le clan lui avait mis la main dessus dès la première semaine. Il avait des capacités, en 3 ans il n'avait guère évolué, mais avait un salaire régulier et était nourri tous les midis. Le clan Aryandrikanom s'occupe de tourisme. C'est lui qui gère les allées et venues des touristes et des hommes d'affaires. Andrzej, qui ne devait évidemment pas connaître l'identité de ses visiteurs, passait sa journée à traduire des instructions récupérées ou enregistrées par téléphone ou envoyées par email sous forme de fichiers audio à différentes personnes travaillant pour le clan qui ne parlaient pas les différentes langues et qui, eux, allaient ensuite mettre ce qu'il fallait en œuvre peut-être tout comme Andrzej, sans avoir le nom du visiteur. C'était loin, mais pour économiser l'argent, il prenait les passerelles, faisant un grand détour plutôt que de prendre le bateau. Ça lui laissa tout le temps de revoir de nouveau sa vie, mais pas les 3 dernières années, tout depuis le début. Tenant la lettre dans sa main et se demandant comment ils avaient bien pu faire pour le retrouver, malgré ses déménagements. Au pas qu'il ait déménagé exprès pour brouiller ses pistes. Non, simplement le lien s'était rompu et il pensait que c'était fini. Il n'avait pas eu de chance, enfin, d'une certaine manière. 7 mois après son emménagement, dans la tour Siforgen, il y avait eu une tempête et il s'était retrouvé les pieds dans l'eau. C'était monté très vite, en fin de soirée. Il avait fallu évacuer rapidement. Son voisin, Don Eng, avait eu des difficultés et il l'avait aidé. Il n'a pas bien su, mais à New Deran, il y avait dû avoir 2-3 morts, comme c'est le cas à chaque fois. Des pauvres gars coincés dans leur cambuse, qui ne voient pas monter l'eau et qui ne s'éclipsent pas assez vite. Au bout de 7 mois, il avait déjà commencé à faire des économies. Aussi avait-il profité de cette opportunité pour grimper d'un étage. Pas à Siforgen, il avait changé de tour, c'était celle juste en face, la tour Batangas. Il était passé du moins 3 au moins 2. Toutes ses économies étaient passées, il avait même dû s'endetter un petit peu. Et puis, Don Eng avait une fille, Yann, qui avait mis un petit peu d'argent de côté et qui l'avait ainsi remercié pour avoir sauvé la vie de son père. Yanzi avait mis au bout et lui s'était endetté pour 6 mois. Il comprenait maintenant le principe de l'ascension sociale à Angebashan. Il était effectivement passé du moins 3 au moins 2. Oh, c'était facile, il était resté dans le même quartier. Il était toujours à New Deran, le quartier des éboueurs. Et le clan, Viran Prenom, avait trouvé intéressant de pouvoir lui soutirer un peu plus d'argent. Il grimpait dans les étages, il grimpait à l'échelle sociale, tout en étant encore plus pauvre et endetté. C'était drôle. Il n'y avait pas de passerelle entre la tour Siforgen et la tour Batangas. Pourtant, sa fenêtre donnait sur la façade de son ancienne fenêtre. Lui au moins 2, son ancien voisin, Don Eng, qui avait récupéré le même appartement, n'ayant pas les moyens de s'en payer un autre, de temps en temps il se faisait coucou à la fenêtre. Dans le quartier des éboueurs, l'évolution sociale se sentait vite, au sens propre, à l'odeur. Au 3e, c'était ceux qui trimbalaient les déchets. Au moins 2, Andrzej se trouvait maintenant plutôt avec ceux qui conduisaient les navires. Eux aussi sentaient, mais un petit peu moins. Et on le regardait différemment. Après tout, généralement on met du temps pour passer du moins 3 au moins 2, c'est comme s'il avait été citoyen depuis un petit bout de temps. Personne ne disait plus rien. Bref, ça puait moins, même dans son travail on lui avait fait remarquer, c'était mieux. Depuis 3 ans, il travaillait dans les sous-sols de la tour Zafir. Quand il arriva ce matin-là, il se souvint la première fois qu'il était passé sur cette passerelle, plein d'espoir, nouveau citoyen, espérant trouver un travail. Une sorte d'accomplissement de ses 21 premières années. Né en Inde, à New Pondichéry, il s'était retrouvé orphelin à 16 mois. Il ne se souvenait pas vraiment de ses parents, et n'avait jamais vraiment su s'il avait été abandonné ou si ces derniers étaient morts. À cet âge-là, on était récupéré rapidement par les trafiquants d'enfants. Son nouveau père, qu'il n'avait jamais su son nom, on l'appelait le vieux. La marmaille était composée d'une dizaine de moutards, entre 1 an et, disons, 5 ans. Le vieux les élevait pour pouvoir ensuite les vendre aux différentes mafias qui utilisaient les enfants pour voler, pour faire la manche ou pour travailler dans des usines interdites, ce qui n'était pas possible avant 5-6 ans. Jusque-là, le vieux prenait grand soin d'eux. Ils étaient bien nourris, il s'agissait que la marchandise lui rapporte. C'était un véritable investissement. On ne parlera pas ici du long débat sur l'inné ou l'acquis. N'ayant pas de souvenir de ses parents, difficile de trancher. En tout cas, le gamin avait des dispositions. Il était plutôt malin, le vieux s'en était rendu compte. Il avait investi toutes les économies d'une vie, en espérant miser sur cette tête-là. Un peu comme un chercheur d'or, qui dépense tout le maigre butin accumulé pendant des années pour acheter un filon qu'il sent être le bon, celui qui lui permettra de s'arrêter et de vivre correctement. Pensez donc, Andrzej avait même été à l'école pendant 3 ans, et le vieux l'avait gardé jusqu'à ses 7 ans. Pas un gras. Le gamin avait bien travaillé à l'école. Les rudiments de la lecture, compter, mais surtout, il était trilingue. Tamoul, anglais, et le vieux lui avait fait apprendre le chinois. Enfin, le cantonais. Ça aurait de la valeur. Et effectivement, le petit avait des dispositions pour les langues. Rapidement, il fut trilingue, de bonne qualité. Est-ce qu'une marchandise se soucie du bénéfice réalisé pour celui qui l'a vendu? Non. Andrzej n'a jamais su ce qu'était devenu le vieux et s'il s'était retiré des affaires après l'avoir vendu. En tout cas, il avait trouvé le Maïdanar, celui qui allait le prendre en main. De même, il ne saurait jamais qui payait le Maïdanar. Est-ce qu'il travaillait pour une mafia? Peut-être travaillait-il pour le gouvernement indien, ou pour un autre gouvernement? Peu importe. En Inde, déjà, le Maïdanar semblait clandestin. Pendant 10 ans, 10 longues années, 10 années difficiles, on avait continué à investir sur lui, mais on avait commencé à se rentabiliser. Jamais de repos, jamais de vacances. Le Maïdanar tenait absolument aux 3 pieds de son tabouret, et il était bien assis dessus. Andrej passait un tiers du temps, vaguement, à suivre l'école, continuant à apprendre 2-3 trucs. Un tiers du temps, il travaillait dans une usine. Là, clairement, l'objectif était qu'il rapporte de l'argent. Et puis un dernier tiers, où on commençait à lui enseigner les ficelles du métier, et où les missions, importantes ou pas, s'enchaînaient les unes aux autres, sans qu'il sache réellement si c'était des entraînements, ou s'il y avait réellement un risque, et s'il était déjà, d'une certaine manière, un espion en herbe. 10 longues années avant la libération, envoyé en mission, quelque part, et en plus, définitivement, en agent dormant, il allait pouvoir y rester, sans avoir le Maïdanar sur le dos, mener une vie presque normale, en attendant qu'on le réveille, ou de temps en temps, si jamais on lui demandait des services. C'est comme ça qu'il avait découvert Angebashan. Une nuit, un cargo qu'il avait largué sur une coquille de noix. Puis, au loin, les lumières de la ville, la terre, et une espèce de cahute boueuse où on lui expliqua le principe de la ville, le principe du jardin, et ce qu'il allait avoir à faire. Il allait avoir 18 ans et devenait Mengintai. Ce qui, sur Angebashan, recouvrait tous les gens qui étaient là pour une raison secrète. Envoyés par les gouvernements, par différentes mafias, par des groupes industriels, par des financiers. Bref, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, souhaitaient avoir quelqu'un dans la place pour récupérer des informations précises ou attendre le jour où peut-être il faudrait agir. En attendant, règle numéro 1 du Mengintai, se faire oublier, se fondre dans le paysage. En fait, mener une vie normale, comme s'il était un migrant qui, ayant payé très cher pour arriver à cet endroit-là, souhaitait, comme tous les autres, grimper l'échelle sociale. Pauvre Andrej, écrasé par le soleil, avec les travaux de force qui lui avaient fait gonfler les muscles, transformant un frêle adolescent de 17 ans en une montagne capable de transporter sans sourciller des sacs de riz de 50 kilos, le travail au jardin l'avait transformé, si bien qu'au bout d'un an il était méconnaissable, abruti par tout ce qu'il faisait toute la journée, arrivant à peine à se souvenir de ses rêves la nuit. Mais il avait réussi, il avait fini par faire son trou. De la cahute, il avait déménagé, avait proposé ses services, où bien sûr il ne posséderait jamais ni la terre, ni même le toit qu'il avait au-dessus de la tête. Mais, comme de nombreux qui vivaient dans les jardins, il était ouvrier, suffisamment bien nourri pour pouvoir espérer continuer à vivre ainsi tranquillement, en attente de quelque chose qui change peut-être le cours de sa vie. Il en aurait presque oublié sa condition, et au bout d'un an, ressemblait vraiment aux autres qui cherchaient à aller en ville, non parce que, quelque part, c'était leur mission secrète, mais simplement parce que c'était évoluer, s'élever dans l'échelle sociale. Pendant 1 an, on l'avait réellement laissé en agent dormant. Puis un soir, en rentrant dans sa cahute, caché sous le coussin qu'il y avait sur sa paillasse, il avait trouvé une petite enveloppe jaune. Dedans, un peu d'argent, plutôt une bonne nouvelle. Et, en quelques mots, la mission qu'on lui attribuait. En y réfléchissant a posteriori, il s'était bien rendu compte que cette mission, en fait, n'était pas une mission qui intéressait le Maïdanar. C'était une mission pour lui permettre d'avancer vers sa cible. L'argent n'était pas pour son confort. C'était juste ce qu'il fallait pour graisser les bonnes pattes, pour se rapprocher de Lordev. Lordev, l'acheteur d'Iniwashi, le japonais à qui tout le monde était obligé de vendre tout ce qui poussait dans les jardins. S'en rapprocher, c'était potentiellement rentrer dans les rouages de la collecte, du transport et du calcul. En un mot, au lieu de le laisser s'abrutir dans les champs et perdre tout le potentiel intellectuel que l'on avait cultivé en lui, il allait pouvoir, au contraire, de nouveau parler plusieurs langues, compter et réfléchir. À partir de là, il s'habitua à recevoir la petite enveloppe jaune tous les 2 à 3 mois. Sans réellement monter dans une quelconque hiérarchie, de toute façon, dans les jardins, la seule hiérarchie qui existait, c'était « je possède de la terre » ou pas. « Je travaille pour moi », c'est-à-dire pour le Niwashi, ou « je travaille pour les autres », ceux qui travaillent pour le Niwashi. En grattant un peu et en négociant correctement, il finissait par ne plus avoir à dépenser tout l'argent qu'il recevait pour graisser les pattes qui allaient bien, et avait ainsi constitué un petit pécule. Ça lui permettait de déménager sans trop de risques, passer d'un bout d'un jardin à l'autre, en fonction des travaux qu'on lui proposait. Pas forcément mieux payé, mais peut-être physiquement moins pénible. C'est ainsi qu'au bout d'un an et demi, il avait pu quitter les légumes ou les rizières, qui obligeaient à être cassés en deux toute la journée, pour plutôt travailler dans les arbres fruitiers. Oh, certes, il perdit un peu de muscle, forcément. On ne fait pas des sacs de 50 kilos avec des fruits. Mais physiquement, il se sentait plus en forme, avait l'impression que son cerveau pouvait passer plus de temps à s'ouvrir au monde qu'à réfléchir à ses douleurs. Cela n'avait malheureusement pas eu que des bons côtés. En faisant le tour, d'une certaine manière, de l'île, et donc des jardins, il avait rapidement fait le tour de la question. Angebashan était un vieux rêve. Des jardins, pratiquement personne n'arrivait jamais en ville. Cette évolution-là, dans l'échelle sociale, était pratiquement impossible. La raison en était simple. Que les jardins deviennent un sas pour accéder à la ville, et ils auraient été envahis par tous les miséreux que les lumières de la ville attiraient, mettant ainsi en jeu le business du Niwashi. Car ces terres devaient rester des terres agricoles. Pas question de voir d'immenses bidonvilles s'y construire, avec des crèves la faim, attendant le jour béni où ils pourraient aller en ville. Non. Ceux qui travaillaient dans les jardins restaient dans les jardins. Les esclaves que l'on faisait venir au moins 3 dans la ville pour remplacer ceux qui partaient ou ceux qui mouraient. Ceux-là étaient recrutés directement sur le continent par des rabatteurs. Oh bien sûr, régulièrement, tout comme Andresh, des passagers clandestins débarquaient sur l'île. Sauf que lui, on lui avait prévu le certificat de travail qui allait bien dans les jardins. Les autres volaient un peu, maraudaient un peu, finissaient par se faire repérer, et donc soit étaient abattus, soit, juste avant, avaient tenté la traversée. Le chenal, surveillé, le golive, surveillé, n'importe où ailleurs, plus d'un kilomètre à nager. Rares étaient ceux en forme suffisante pour un tel exploit. On retrouvait généralement leur corps, gonflé d'eau, quelques jours plus tard. Quant à ceux qui arrivaient à passer, s'ils n'étaient pas repérés et abattus, eh bien, peut-être pouvaient-ils essayer d'arracher un bon de citoyenneté en payant très cher. Mais ils étaient peu nombreux. Andresh s'était alors demandé pourquoi on ne l'avait pas mis dans les mains d'un rabatteur pour arriver directement en ville. Le passage par les jardins, des années et des années, pour rien, pour apprendre que jamais un jardinier ne viendrait en ville avec le papier, le blanc-seing de citoyen. Puis un jour, il y avait eu la visite d'Alexei. Lui était là pour on ne sait trop quoi. Il devait l'héberger, le cacher, lui fournir ce qu'il pouvait en termes, entre autres, d'électricité pour les appareils électroniques qu'il avait planqués dans la cahute. Ça avait duré un mois et demi. Puis quelques semaines après, le miracle, une enveloppe avec un peu d'argent et le bon de citoyenneté. Arrivé à Angebashan, il n'avait plus jamais été contacté, plus jamais d'enveloppe. Alors, forcément, pour lui, c'est comme si une page s'était tournée. Il avait malheureusement dans la poche la preuve que ce n'était pas le cas. Et ça tombait mal, car il y a 3 jours, il avait enfreint la règle suprême qu'on lui avait apprise à New Pondichéry et qui s'était révélée encore plus vraie sur Angebashan. Un Mengintai ne doit pas avoir d'attache. Or, il y a 3 jours, il s'était mis en ménage avec Yanzi. Deuxième déménagement, Tour Novgorod, dans le quartier Europa, appartenant au clan Navagorski pour lequel elle travaillait. Comment avait-il pu le retrouver ?